la fête des mères sur RSL.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la fête des mères, notre nouvelle émission sur RSL, épisode 4 ce soir, et nous avons le plaisir de recevoir monsieur Gérard Canovas, maire de Ballaruc-les-Bains, vice-président de l'Aglo en charge du logement. Dans la première partie, bien sûr, nous reviendrons sur son engagement en politique, puis sur sa vie un peu plus personnelle et les projets de l'Aglo en matière de logement en fin d'émission. Mais tout de suite, vous en avez l'habitude maintenant, on va démarrer en musique avec un titre choisi par monsieur Canovas. Il s'agit de Pascal Danel, La plage au romantique.
Il y avait sur une plage une fille qui pleurait. Je voyais sur son visage de grosses larmes qui coulaient. Laissons la plage au romantique. Ce soir, j'ai envie de t'aimer. Laissons la plage au romantique. Je veux t'aimer à mon idée. Cette plage au clair de lune était triste à pleurer. Elle était si loin la dune, comme le temps a passé. Laissons t'aimer à mon idée. Et mes mains sur son visage l'ont soudain consolé. Il restait la belle image d'une fille qui riait. Veux-tu m'épouser? Viens, allez, viens.
La fête des mères sur RSL.
Gérard Canovas, bonjour.
Bonjour.
On vient d'écouter un titre que vous avez choisi, Pascal Danel, La plage au romantique. Pour quelle raison ce choix ?
Oh, ben, ça a été pratiquement spontané. C'est un souvenir de jeunesse, une très belle chanson avec la mer. J'avais 19 ans, j'étais en vacances, j'étais plus au bord de la Méditerranée, j'étais parti de l'autre côté à l'océan, j'étais au Pays Basque, et c'était le tube de l'année, et donc voilà, ça me remémore un peu cette époque-là, qui était une époque dorée, et donc voilà pourquoi j'ai choisi Pascal Danel.
Pour démarrer cette émission, vous le savez, on parle d'abord avec les maires qui ont été élus récemment, de leur engagement à la base en politique. Et donc c'est la première question que je vais vous poser, comme à tous les autres. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé à vous engager pour votre commune à Ballaruc-les-Bains ?
Mais ça a été le fait du hasard. Lorsque j'ai pris ma retraite fin 2007, j'étais parti quelques années pour mon travail. Je suis revenu peu de temps avant de m'arrêter professionnellement. Je suis revenu à Ballaruc-les-Bains. Et là, dans la population, on me disait « Gérard, il faut se présenter, il faut te présenter, etc. 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 » Puis on est venu un peu me chercher. J'ai longuement réfléchi. J'ai été pendant quelques années privé de ma commune et je lui portais un amour fou, je peux le dire, parce que partout où je suis passé, j'essayais d'être l'ambassadeur de Ballaruc-les-Bains. Et donc, un peu la fleur au fusil, comme ça, on a constitué une équipe faite de compétences, de beaucoup de gens natifs de Ballaruc au départ. Et voilà comment l'aventure a commencé.
Par la suite, donc, c'est pas votre premier mandat, bien sûr. C'est le troisième.
Oui, c'est le troisième.
C'est le troisième. Quels sont les projets que vous avez menés, qui sont terminés maintenant et dont vous êtes fier ?
Oh, ben, y a le projet phare. C'est la construction du nouvel établissement thermal qui était absolument nécessaire. C'était un investissement productif qu'il fallait réaliser à tout prix. Ça n'a pas été simple. Il a fallu avoir de la pugnacité, il a fallu avoir de la volonté. On est passé par toutes les étapes, hein, des recours, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est un bel outil, un bel aboutissement. Cet investissement nous a permis de nous développer, de devenir la première station thermale de France. Et là, toute mon équipe a une certaine fierté à dire qu'elle est à l'origine de tout ça.
La plus grosse fierté, c'était ça. La plus grosse difficulté, si on accepte pour le moment ce qu'on vient de vivre.
D'accord. Oh, ben
on va y revenir.
La plus grosse difficulté, c'est l'aboutissement des projets. C'est très compliqué, les lois sont compliquées, il faut beaucoup de délais. Et ça, c'est quelque chose, on met beaucoup de temps. Il faut l'expliquer à la population, parce que la population, elle croit que lorsqu'on lance un projet, il va être réalisé tout de suite. Et puis on se rend compte qu'au fur et à mesure, il y a des embûches. Heureusement pour les thermes, à part toutes les problématiques juridiques que nous avons eues avec les recours, les thermes, c'est allé relativement vite. C'est un projet qui a démarré en 2012, hein, la pose de la première pierre, et on y est rentré au 1er janvier 2015. Donc ça a été extrêmement rapide. Bien sûr, on mûrissait le projet depuis longtemps, parce que c'était un élément phare de notre programme en 2008, en disant les thermes Athéna, on ne pourra plus les utiliser parce qu'ils sont obsolètes, et puis le préfet allait nous faire fermer. Hein. Et donc,
c'est ce qui était en cœur de ville, vraiment.
C'est ce qui était en cœur de ville qui ont été démolis. Et donc, il faut réellement faire ça. Alors, vous parliez de fierté à un moment donné. Je dirais la récompense des efforts. Ça a été aussi l'obtention de la phlébologie en 2009, qui est notre deuxième thérapeutique, puisque traditionnellement, Ballaruc s'est développé par la rhumatologie. Et donc, la phlébologie nous a beaucoup amené aussi.
Sur les dernières semaines, voire les derniers mois maintenant, vous avez dû gérer une crise énorme pour les thermes, avec sa fermeture pendant combien de temps vous avez dû fermer ? 4 mois. Ça a dû être, parce que j'ai accepté cette partie-là, mais je pense que ça a été certainement le plus difficile à gérer depuis le début de vos mandats, non ?
Oui, c'est inédit. Nous avons développé l'emploi. On est passé de 250 salariés en 2008 à aujourd'hui 430 salariés en direct dans les thermes. Ce sont tous des CDI, qu'ils soient annualisés ou normaux. Et puis, vous savez que techniquement, nous fermons l'établissement thermal du 24-23 décembre. Au 1er mars. Donc,
c'est au moment de l'ouverture que...
On attaque le 1er mars. Le 15 mars, on est confiné. On a payé nos salariés en janvier. On a payé nos salariés en février, comme tous les ans. Et puis après, on a nos recettes qui rentrent en avril, mai. Ça nous compense. On a de la trésorerie. Et là, patatrac. Pas de recettes, puisqu'on est fermé. Et on se retrouve donc en difficulté dès le début du confinement. Et heureusement... Et ça, je le salue. Fort heureusement qu'il y a eu le chômage partiel qui nous a permis de limiter les dégâts.
Comment ça se passe aujourd'hui?
Aujourd'hui, le montage, très rapidement, le montage juridique depuis le 1er janvier 2012, où nous avons fait une grande réforme. La ville de Ballarguilles-les-Bains est propriétaire de l'ensemble des installations thermales, l'établissement thermal, notre laboratoire cosmétique, notre centre de bien-être au Balia, notre blanchisserie sur Gigean, etc., etc. Et nous avons confié au 1er janvier 2012, parce qu'on avait la volonté de garder l'exploitation des thermes dans le domaine public, nous avons confié l'exploitation commerciale des thermes à une société publique locale, les fameuses sociétés publiques locales, qui sont des sociétés anonymes, comme des sociétés anonymes de droit privé, mais dont la particularité est que les actionnaires sont publics. Alors la ville de Ballarguilles-les-Bains a 85% des actions, cette agglopole méditerranée 14% et le département de l'Hérault 1%. Donc nous avons confié ça au 1er janvier 2012 à cette société publique, dont nous assumons bien sûr la présidence direction générale, du fait que l'on soit majoritaire. Et donc du 1er janvier 2012 au 31/12/2019, on a toujours été bénéficiaire. Nous avions un capital social de 2 millions d'euros. On a pu thésauriser dans cette période 7,5 millions d'euros. Donc on se retrouvait au 1er janvier 2020 avec 9,5 millions d'euros de capitaux propres. Patatrac, le corona est arrivé. Déficit, au départ, il était relativement important, évalué. Aujourd'hui, on l'évalue à peu près à 7 millions d'euros. Donc, il va falloir prendre des mesures spécifiques, bien précises, et avoir une gestion très rigoureuse pour colmater ce déficit. Parce que toutes nos réserves ont fondu, et il va falloir les reconstituer avec les bénéfices à venir et avec des aides directes. Vous savez que l'AGLO, et j'en remercie encore le président François Comen, l'AGLO a voté une aide de 2 millions d'euros. Pour l'instant, juridiquement, elle n'est pas encore versée. On ne sait pas comment elle va être versée. On souhaiterait qu'elle soit versée en aide directe à la société publique. Pour cela, il faut que la région vienne. On est en cours de discussion avec la région. Et la région et l'AGLO, les deux entités, ne peuvent aller au-delà d'une aide de 1 million d'euros. Donc ça, si on a ça, c'est une chose. La ville va mettre la main à la pâte. Est-ce qu'elle mettra 2 millions et demi d'euros? On verra. Mais ça n'implique pas la gestion. On a une autre aide, mais qui, elle, est complètement différente. Ce n'est pas une aide qui va venir à la société publique locale, c'est le département. Quand on a construit les thermes, le département de l'Hérault a voté, comme l'AGLO, comme la région, 10 millions d'euros de subvention. C'était un projet de 60 millions d'euros. Mais le président de l'époque, André Vézinet, nous dit, voilà, vous aurez 5 millions tout de suite, et les 5 autres millions seront conditionnés à l'activité. Si vous n'avez pas de difficultés de gestion, ces 5 millions, vous ne les aurez pas. Donc, on n'a jamais eu de difficultés de gestion, puisqu'on a fait du bénéfice jusqu'au 31. Et ça, c'était échelonné sur 10 ans à raison de 500 000 euros par an. 500 000 par 10, ça fait 5 millions d'euros. Pas de difficulté, on n'a rien demandé. Et là, difficulté, j'ai écrit au président, notre conseiller départemental est intervenu également. Et là, on a demandé 3 fois 500 000, puisque 2012-2022 restait 3 ans à courir. Et que là, on est dans le cadre de ce qui avait été prévu. On est dans la difficulté. Donc, le département devait nous verser 500 000 en 2020, 500 000 en 2021, 500 000 en 2022. Et ils nous ont proposé, comme on était en difficulté, de tout verser en 2020. Donc, ils ont délibéré et on aura 1,5 million. Mais ce 1,5 million ne va pas venir aider la société publique directement. Elle va venir dans un budget annexe de la ville qui perçoit, de par la loi, les subventions. C'est une subvention décalée que nous touchons, mais qui va nous donner un ballon d'oxygène pour, si la ville intervient auprès de la SPLET, sous la forme, par exemple, d'un moratoire dans la délégation de services publics, c'est-à-dire dans le loyer, parce que c'est la ville qui rembourse les emprunts, c'est la ville qui a emprunté. Mais ce n'est pas le contribuable balaruquois qui paye le remboursement des emprunts, c'est l'activité commerciale de par le loyer que nous percevons de la société publique. Alors voilà en gros où on en est aujourd'hui, quel est le montage juridique. J'ai fait court et simple, mais voilà, c'est exactement
ça. En pratique, comment ça tourne? Vous avez moins de demandes par force parce qu'il faut que les gens soient distanciés? Comment ça se passe?
Alors, on a un protocole draconien. La sécurité est complète dans les termes. Et on observe un phénomène. Des gens qui viennent à Balaruc, qui sont venus en vacances, qui font la cure depuis 15 ans et qui, cette année, ne sont pas allés dans les termes faire la cure. Par crainte de je ne sais quoi. Alors qu'on est suivi par le médecin de l'Agence régionale de santé. On est suivi tous les jours. Il n'y a pas un cluster dans les termes. On applique un protocole sensationnel, d'ailleurs. Alors, c'est vrai que ce protocole nous réduit un peu le nombre de curistes. Mais ce n'est pas ça. Le plus dur, c'est que il y a des curistes qui ont dit « Bon, allez, on fait la croix sur 2020, on viendra en 2021. » J'espère qu'ils vont venir en 2021. Mais le fait de ne pas venir en 2020, c'est complètement déraisonnable. D'ailleurs, certains aujourd'hui qui ont des difficultés en matière de rhumatologie ressentent le fait qu'ils n'ont pas fait la cure et ils nous disent « Mais on veut avancer la cure en 2021. » Voilà où on en est, alors qu'on pouvait la reculer en 2020. Et aujourd'hui, il y a cette crainte-là qui fait que, au lieu, dans la période, à l'instant où je vous parle, normalement, on tourne à 4500 curistes jour, on est à 3000. Voilà.
C'est un tiers, ça fait un tiers de moins. Hein, c'est, oui.
Ça fait 3000, non, ça fait, oui, à peu près, oui, à peu près.
C'est énorme pour une gestion complète. Avant de passer à vos projets au niveau communal, sur la mandature qui vient, quelles sont les prérogatives finalement qui restent à une mairie quand on voit ce que l'agglo a récupéré, ce que le département a, ce que la région a? Vous avez quoi comme marge de manœuvre quand on est maire aujourd'hui?
Aujourd'hui, de par nos compétences...
Quelle indépendance, on va dire,
alors,
vous avez?
De par la compétence que nous avons la compétence générale. Nous avons... la compétence sur tout, sauf pour les prérogatives qui ont été transférées dans les agglos.
Parce qu'il y a l'économie, exemple, il y a le transport.
Par exemple, l'assainissement. Mais nous avons la compétence économique de par la compétence générale que nous avons. Mais on la partage avec l'agglo et surtout, en matière économique, la région. Le département n'a plus de compétences économiques. Voilà. Alors, quelles sont les compétences des villes? Ce n'est pas tellement au niveau des compétences, mais quels sont aujourd'hui les moyens qu'ont les villes? Nous, on nous a souvent taxés de communes riches. Nous ne sommes pas une commune riche. Nous n'étions pas une commune riche. Nous étions une commune qui avait le privilège d'avoir une entreprise commerciale, hein, et qui, par la réforme de 2012, nous a permis d'injecter dans le budget de la ville des dividendes si, par exemple, on fait du bénéf, comme l'agglo en prenait, comme le département en prenait, et puis les loyers que nous percevons, une partie pour rembourser l'emprunt, dans un budget annexe de la ville, ça c'est bien cadré, le contribuable ne payait pas ce remboursement-là, et une autre partie qui passait dans le budget général de la ville et qui faisait que nous avions un budget un peu plus conséquent. Alors, on nous traitait de communes riches. Mais quand il vous arrive un aléa comme celui-là, c'est le risque de l'activité commerciale. Il n'aurait pas été normal que le contribuable balaruquois ne bénéficie pas de cette manne, à condition qu'elle soit bien gérée, bien sûr. Hein, ça aurait été profondément anormal. C'est ce qui se passait avant, quand on était en régime municipal. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve... dans une situation inverse, puisqu'on perd dans les recettes de la ville, on perd les recettes qui pouvaient provenir soit de la distribution de bénéfices de la société publique, soit d'une partie des loyers. Donc, aujourd'hui, la difficulté de toutes les communes, et Balaruc-les-Bains, c'est pareil, c'est la diminution drastique des dotations de l'État. Nous, on a perdu 1 million d'euros de dotations de l'État en 12 ans. Alors après, notre liberté d'agir, de par la compétence générale que nous avons, il n'y a pas de souci. On peut construire un complexe sportif, on a pu construire les thermes de Balaruc, etc., etc. Mais après, c'est les moyens. Et je me fais du souci.
Ça va pas s'arrangeant.
Comment je me pose une question. Je me pose une question. Comment va se traduire financièrement pour les communes la suppression de la taxe d'habitation? Ça, je me pose une question parce que ce ne sera plus une taxe. Ça risque de devenir une dotation de l'État. Et puis aujourd'hui, alors c'est pratiquement fait pour 2021, mais moi j'ai pas encore lu tous les textes, on nous dit que cette taxe serait compensée par la partie de taxe d'habitation que percevaient les départements, qu'ils ne percevront plus, ils percevront autre chose, hein. Donc on devrait toucher cette partie-là. Mais suivant, on a fait nos calculs, cette partie-là ne compense pas la taxe d'habitation. Est-ce qu'on va nous assurer qu'on nous compense la taxe d'habitation? Et attention, la taxe d'habitation figée à 2017. C'est-à-dire, vous avez des constructions nouvelles qui arrivent, avant, vous aviez des ressources nouvelles. Là, il n'y en a plus. Donc là, de nouveau, les collectivités, et notamment les communes, on va prendre un sacré coup là, sur le plan financier. Alors, la liberté, pour conclure sur le sujet, la liberté de faire, d'accomplir, nous l'avons, mais nous sommes restreints par les moyens financiers parce qu'il faut bien gérer la commune. Et compte tenu de la situation actuelle, heureusement que la commune de Valargues-les-Bains a été bien gérée pendant ces 12 dernières années, parce qu'on serait en grave difficulté. Nous avons... tous nos clignotants sont au vert. Voilà. Par contre, il va falloir régler le budget 2020. On y travaille dessus. Parce qu'on a voté un budget de 18 millions d'euros de recettes. Aujourd'hui, on en perd 6.
Oui.
Elles sont perdues. L'État va nous en compenser 2,5. Et on est en train de trouver 4 millions d'euros d'économies pour équilibrer notre budget. Parce que, de par la loi, notre budget doit être équilibré.
Bien sûr. Vous avez été élu au premier tour, avec votre équipe.
En 2008, on a raté l'élection au premier tour. Il y avait 3 listes. On a raté l'élection au premier tour. On a fait 49%, pardon, excusez-moi, je ne me rappelle pas bien. 49%, et donc après on a été élu au second tour, avec 51,5%, parce qu'il n'y avait plus que 2 listes, avec 51,5%. En 2014, il y avait 3 listes. On a été élu au premier tour avec 58%. Et là, en 2020, il n'y avait que 2 listes. Donc, on a eu la chance d'être élu au premier tour. Ça nous a bien soulagés parce qu'avec le corona, c'était compliqué le second tour. Il a eu lieu beaucoup plus tard. On a été élu au premier tour avec 69,10% des voix.
Qu'est-ce que vous avez en tête avec votre équipe comme projet? Qu'est-ce que vous aviez prévu de faire et que vous allez faire là sur les 6 ans qui viennent au niveau de Balaruc?
Alors, nous avons 2 grands projets. Nous avons le projet d'équipement sportif du domaine de la FIO. Vous savez, c'est le triangle qui se trouve entre Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux. En face, la gendarmerie de Balaruc-les-Bains, vous savez, qui touche Balaruc-le-Vieux.
Oui. Juste là, à la frontière.
juste à la frontière, nous avons un grand projet. Ce projet, comme je vous le disais, il est en difficulté pour 2 raisons. Il se réalisera, mais il est en difficulté pour des raisons purement environnementales aujourd'hui, parce qu'on nous exige, des contraintes faramineuses par rapport aux espèces, etc., etc. Je fais court. Et puis, pour des raisons calendaires budgétaires, c'est un projet que nous voulions réaliser dans sa totalité dans les 6-7 ans qui viennent. Et nous allons le faire en plusieurs tranches, nous allons le décaler. Mais ce projet aura lieu. Ça, c'est un projet, d'intérêt général et qui a également un intérêt économique. Je m'explique, parce qu'il y a un autre projet d'investissement important sur le nord de la presqu'île, à l'ancien emplacement des thermes Hespérides, qu'on va détruire. Hein. Et là, nous avons un projet de construction, d'abord d'agrandissement et de rénovation totale de notre centre de bien-être au Balia, construction d'un hôtel 4 étoiles plus, qui sera prise par un privé, parce que c'est absolument indispensable.
Et ça n'existe pas sur le bassin de Thau.
Et ça n'existe pas pour l'instant sur le bassin de Thau. Et la construction d'un centre de préparation physique, de réathlétisation pour les athlètes de haut niveau et les amateurs, un panel très élargi, avec la création, elle est déjà créée, mais on n'a encore pas les locaux adaptés, d'une maison sport santé bien-être. Je vous rappelle que la rue Glébin, pour l'instant, est la seule commune du département de l'Hérault à avoir été agréée comme maison sport santé bien-être, qui donc voit le jour et se développe à un bon rythme. Voilà deux grands projets. Vous comprendrez que ce projet avec le centre de réadaptation, de réathlétisation, de récupération, de préparation physique, il ne peut aboutir que si nous avons des infrastructures sportives adaptées, que nous n'avons pas pour l'instant. D'où le complexe sportif de la FIO, qui sera échelonné, mais dont les premiers éléments, avec les équipements de terrain de football, un stade d'athlétisme, etc., va nous aider pour attaquer notre centre de réathlétisation.
Vous avez parlé d'Obalia, ça aussi, et tout à l'heure vous parliez de ballon d'oxygène, au niveau de l'activité thermoludique, ça a été quand même quelque chose d'important pour la création de cette partie d'Obalia.
Alors, Obalia, c'est une partie de diversification du thermalisme. Mais Obalia, notre Obalia a été mal conçu. Il n'y a pas de piscine couverte, la qualité des matériaux n'est pas bonne, etc., etc. Et c'est toute une histoire. Nous, quand on est arrivé, il y avait un grand trou. Il fallait... voilà. Aujourd'hui, Obalia va être complètement relooké, on va faire la piscine couverte. On a besoin de cet investissement qui est productif pour augmenter notre capacité de clientèle qui attend. Parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, entre midi et deux, quittent leur travail, vont se détendre et ensuite retournent au travail.
Exactement. Donc, Obalia est un élément de la diversification. Et notamment la diversification pour l'emploi. Il y a quand même une trentaine d'emplois à Obalia. C'est pas neutre. Et puis, on a une autre diversification. C'est nos produits cosmétiques que nous développons nous-mêmes, c'est-à-dire que nous créons la molécule, nous avons un ingénieur qui est adapté à ça, nous créons notre molécule, nous créons nos produits cosmétiques, nous les fabriquons et nous les commercialisons. Aujourd'hui, on a commencé en 2010, 10 ans, parce que c'est dur, hein. Ça c'est quelque chose de très dur. Là, on a fait un véritable pari qui aujourd'hui est pratiquement gagné, à savoir qu'on a créé nos boutiques dans Balaruc et on a travailler sur la qualité du produit et on a travaillé uniquement à petite échelle. Et aujourd'hui, nous partons, dans un premier temps au niveau national, dans les pharmacies. Nous avons été accompagnés par des sociétés spécialisées qui nous ont permis d'appréhender comment on pouvait se développer et vendre dans les pharmacies. Et ça y est, nous attaquons, là on y est depuis le 1er octobre, nous attaquons dans les pharmacies.
Quelque chose qui est plus récent, mais qui va concerner Balaruc à moyen terme, c'est l'obtention des Jeux Olympiques en base arrière, on va dire, pour 2024. Et Balaruc, avec les thermes, est en plein milieu.
Alors voilà, on est en plein milieu.
Au cœur du bassin de Thau, parce que
Il y aura plusieurs communes du bassin de Thau, en collaboration très étroite, parce que c'est porté par l'agglo. Hein, et puis je crois qu'on s'est associé avec la métropole de Montpellier et l'agglo de Millau. Hein. Nous sommes candidats, et ça y est, retenus, pour les bases arrière. Et nous, notre spécificité sera d'apporter les soins aux athlètes par l'intermédiaire de nos eaux.
Ouais. Donc ça va être quand même pas mal de... Il va falloir faire de la place.
Il va falloir faire
sur le bassin
de Thau,
parce que si les délégations qui viennent, parce que ça va être probablement des délégations du sud de l'Europe, voire du nord de l'Afrique, qui vont venir ici pour préparer les JO avant de monter à Paris au village olympique.
Tout à fait. Et là, il faudra être prêt. Alors, il y a le coronavirus, la pandémie qui est là. Je ne sais pas comment ça va se passer.
Il faut espérer qu'en 2024, ça sera passé.
En 2024, nous serons prêts et débarrassés de la pandémie.
La pyramide spéciale entreprise. Un menu complet à 14 euros. Buffet à volonté, parking, salle de séminaire de 20 à 60 places avec vidéoprojecteur pour vos réunions de travail ou conférences. Et toujours son menu classique avec buffet à 16 euros. Restaurant La Pyramide, zone d'activité La Pérade.
La fête des mers sur RSL.
On va passer maintenant à quelque chose qui vous concerne plus directement, parce qu'on va parler de vous, de ce que vous aimez de manière générale en matière de sport, de culture, et puis sur certaines questions qui sont plus ou moins sociétales ou existentielles. On va démarrer avec tout ce qui est culture, musique, cinéma, littérature, puisqu'on a entendu un morceau de musique tout à l'heure. Qu'est-ce que vous aimez de manière générale en musique ? Est-ce que vous avez le temps d'en écouter ? Et comment ?
Alors, J'ai pas trop le temps d'écouter de la musique. Je ne suis pas un expert de la musique, mais ce que j'adore écouter, ce sont surtout les chansons de variété, hein, qui me plaisent beaucoup. Et puis pour moi, la musique, c'est un moment de détente. J'adore une émission qui, pour certains, peut paraître banale. C'est l'émission N'oubliez pas les paroles de Nagui. J'ai appris, parce que là, avec Roland Garros, ça a été coupé, j'ai appris à l'émission de samedi dernier que le nouveau maestro, qui, ça fait 10 victoires qu'il a, il a droit à un cadeau, et ce cadeau, j'ai vu Balarug-les-Bains, il va venir à Balarug-les-Bains faire, il appelle ça une thalasso, alors que c'est pas une thalasso, mais du bien-être en eau thermale, voilà. Alors la musique, surtout la musique de variété, j'ai pas trop le temps de l'écouter. Le plus souvent, c'est quand je suis en voiture. Hein. Tout à l'heure, pour venir dans vos studios, j'ai écouté Radio FM, que j'aime bien, voilà, pour écouter de la variété, notamment française.
Ah bah oui, c'est bien aussi. D'ailleurs, ça rejoint ce que Nagui fait dans son émission, parce que c'est essentiellement de la musique française, c'est même exclusivement
de la musique
française. Une des questions qui est dans notre liste, est-ce que vous êtes plutôt Johnny ou Eddie ?
Plutôt Eddie.
Parce que c'est plus crooner, c'est plus...
Est-ce que ça vient du fait que... ça va vous paraître ridicule, mais peut-être que c'est ça. Moi, j'ai vu Eddie Mitchell, j'étais très jeune, quand le théâtre de Verdure a été créé à Balarug-les-Bains. Il est venu avec les chaussettes noires à l'époque, et je l'ai connu là. J'ai eu l'occasion de l'approcher. J'étais très très jeune, hein, de l'approcher. Peut-être que cette sympathie m'est venue naturellement de ça. Mais voilà pourquoi. Bon, sinon, j'aime bien Johnny Hallyday aussi.
Est-ce que vous avez justement un souvenir de spectacle ou de concert en particulier qui vous vient à l'esprit là ? Un très bon souvenir.
Un très bon souvenir ?
Oui, un spectacle, que ce soit récemment avec justement le Théâtre de Verdure, puisqu'il y a pas mal de spectacles qui s'y déroulent l'été quand c'est des étés normaux.
Oui.
Ou ailleurs que vous êtes allé vous êtes allé assister dans un théâtre, une salle de concert, quel que soit le spectacle.
Il y a quelque chose, alors moi je brode un peu avec le passé, il y a quelque chose qui m'avait impressionné, j'étais tout jeune également, c'était la venue de Gilbert Bécaud au Théâtre de Verdure de Balarug-les-Bains. Il y avait des gens dans les arbres. C'était impressionnant, et à cette époque-là, il avait un dynamisme tel qu'il haranguait les foules, etc. Ça, c'est un truc, quand on est jeune, bon, on est marqué. Voilà ce que je peux dire dans mes souvenirs.
Ouais, parce que, enfin, vous parlez du Théâtre de Verdure, mais ça me vient, on parle beaucoup du Théâtre de la Mer, à 7, qui est un écrin magnifique, mais le Théâtre de Verdure aussi. On y pense moins, mais c'est vrai que c'est quand même un lieu particulier.
C'est vrai, mais ce Théâtre de Verdure...
Parce que quand on y est dedans, on n'a pas l'impression d'être en plein centre d'une ville.
Oui, tout à fait. Mais bon, ce Théâtre de Verdure mériterait, mais ça fait partie des projets un peu plus lointains, rénovation. Hein, parce que pour l'adapter un petit peu, il n'est plus adapté aujourd'hui pour faire venir des chanteurs de renom, parce que financièrement, on n'a pas la capacité d'accueillir. À l'époque, oui, à l'époque, venus des artistes, Gilbert Bécaud, Patrice et Mario, Annie Cordy, Bourville, moi, j'étais tout gamin. C'était l'office du tourisme qui s'occupait de ça à Balaruc. Eh bien, ils avaient les moyens de les faire venir. Il y avait des cars qui venaient de Montpellier de 7. On avait une capacité qui est la même qu'aujourd'hui. Et c'était, entre guillemets, équilibrable. Bon, rentable. Voilà. Aujourd'hui, ça ne le serait plus. Voilà.
On va changer de partie culturelle. Au niveau du cinéma, qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'est-ce que vous allez voir ? Est-ce que vous allez au cinéma, déjà ?
Alors, j'y vais pas souvent, par manque de temps. Ça m'arrive d'y aller. Hein. Alors, moi, quand je vais au cinéma, il faut que ça me change les idées. Il faut que je sois plus axé vers des films où on ne se prend pas la tête, où j'ai la possibilité de rire, parce que le rire, on ne rit pas souvent, mais le rire, il est important. Et donc, j'essaye de sélectionner les films qui sont dans le style que je viens de vous décrire.
Le dernier film que vous avez pu voir au cinéma ou à la télé, même récemment, qui vous a marqué, qui vous a fait plaisir.
Écoutez, hier soir, j'ai regardé, alors c'est pas du tout le même genre, j'ai regardé à la télé Hugo, sur la 2. Alex Hugo.
Oui. Voilà. C'est du téléfilm, oui, qui est.
Le téléfilm, qui a été repassé, là, voilà.
Qu'est-ce qu'on peut trouver encore à part le. On va passer à autre chose. On va passer sur la partie sport. Est-ce que vous avez fait du sport? Est-ce que vous en faites encore? Parce qu'on en a beaucoup parlé tout à l'heure.
Alors. J'ai fait du sport, j'ai joué au football, j'ai joué au stade Balaruquois, où j'ai joué au plus haut niveau, à mon niveau, c'était en promotion A à l'époque, hein, en promotion d'honneur, pardon.
C'est un PHA, oui. Ça s'appelait comme ça.
Et donc, voilà. Alors, c'était la tradition de l'époque, l'hiver, le football, où il y avait beaucoup de monde qui venait nous voir jouer parce qu'il n'y a pas la télévision, etc. etc. Et puis, l'été, j'allais jouer au boule, mais je jouais plutôt au Lyonnais qu'à la pétanque.
Oui, parce que ça, c'est quelque chose aussi, il faut qu'on y vienne maintenant. Avant de partir là, on parlera un petit peu de projet aglo, mais ça n'ira pas vers le sport. Mais c'est vrai que l'aglo a la compétence pour le sport de haut niveau. S'y implique. Et vous avez sur site à Balaruc un des sports qui est le sport boule que vous accueillez, où il y avait une belle équipe d'ailleurs.
Oui, oui, tout à fait. C'est une histoire rocambolesque. En 2009, le président de la Boule d'Azur vient me voir. Il me dit, voilà, j'ai un projet sportif avec mon club, qui était un club au plus bas. Il me dit, nous sommes au plus bas. On a un projet pour nous amener jusqu'en élite 1. Est-ce que la ville nous aidera? Bien naturellement, je ne pouvais pas dire non. J'ai dit oui. Et quand il est sorti de mon bureau, j'ai rejoint un de mes adjoints dans son bureau qui pratiquait ce sport-là, lui aussi, à qui j'annonce la nouvelle. Et il me regarde, il me dit « Est-ce que tu penses comme moi ?» Je dis « Peut-être, tu penses à quoi ?» Il me dit « Ils ne sont pas encore au bout, ils ne sont pas encore arrivés. » Eh bien, ils sont arrivés rapidement. Tous les ans, ils sont montés. En 7-8 ans, ils ont rejoint l'élite du sport boule. Aujourd'hui, ils disputent la Coupe d'Europe. On est dans les 4 meilleurs clubs français. C'est un sport qui n'est pas médiatisé, mais qui mérite d'être connu.
C'est quoi la différence entre le... Vous parliez de pratique de jeu lyonnais.
Oui, c'est pareil. Le jeu lyonnais, c'est la base du sport boule. La fédération s'appelle Fédération Française de Sport Boule et de jeu lyonnais.
D'accord.
C'est comme ça, c'est la grosse boule pour tirer en cours. Et à partir de là, ils ont fait des épreuves modernes, de véritables athlètes, hein, ils tournent, c'est à voir. Et c'est très difficile à décrire, c'est pas assez médiatisé, mais c'est pas statique.
D'accord.
Voilà. Donc, on a la chance d'avoir ce club Balaruc. Le premier match qu'ils ont fait dans le boulodrome, parce qu'après il a fallu construire un boulodrome, hein, parce qu'ils allaient jouer à Bagnols-sur-Cèze, à Montpellier, etc. Le premier match qu'ils ont fait il y a 2 ans, dans le boulodrome, il y avait 450 personnes quand même.
Ouais,
c'est pour un sport comme ça, c'est pas mal du
tout.
Oui,
pour un sport qui n'est pas médiatisé, comme vous dites, c'est
voilà. C'est beaucoup. Alors voilà, oui.
Vous avez joué à ça alors?
J'ai joué à ça, mais à l'époque traditionnelle, les épreuves sportives que l'on appelle aujourd'hui, c'est des athlètes, hein, il faut voir. C'est bien simple. Sur 5 minutes, ils tirent 50 boules, ce qui fait 3 fois 5, 15, ce qui fait 50 fois 30 mètres, ce qui fait 1500 mètres en 5 minutes. Et ils en tapent au plus haut niveau, 48, 49,
50.
L'adresse et le physique, c'est à voir, c'est vraiment à voir.
En tant que spectateur, qu'est-ce que vous appréciez comme sport? Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous regardez à la télé?
Alors, je vais voir surtout le football, un peu le rugby. J'aime bien aussi le hand. Alors ici, on est gâtés. Et le volley. Voilà. Alors ici, on est gâtés parce que dans le haut niveau, on a le hand, le rugby, le football à Montpellier. On a le volley à 7. Et donc, et puis les termes également, pas en 2020 parce qu'on est restreint, mais les termes sont partenaires de ces 4 clubs-là. Des 3 clubs, pas le football à Montpellier, mais on est partenaire du rugby, On est partenaire du Hand à Montpellier et du Volley à 7.
Oui, voilà. qui viennent en préparation de saison ou en voilà, reprise
Les volleyeurs de 7 viennent souvent.
On va changer un tout petit peu de sujet après le sport. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Avant 10 ans, 10-11 ans.
Vous faites une jonction formidable là, avec le sport. Mon rêve aurait été d'être footballeur professionnel, mais je n'avais pas le niveau. Et donc, ça n'a pas réussi. C'est ce que je rêvais. Excusez-moi, j'ai le masque qui me gêne un peu.
Donc, c'est ça. Et puis, finalement, vous vous êtes destiné vers quoi?
Je me suis destiné vers l'administration, puisque je suis rentré, après avoir passé des concours dans l'administration des impôts. J'ai été inspecteur des impôts et j'ai terminé responsable de centre des impôts.
C'est un métier qui fait peur aux gens.
Oui, mais je ne cache pas que aujourd'hui, je reconnais et je salue la formation que j'ai pu avoir à l'École nationale des impôts, me sert beaucoup dans ma fonction de maire.
Oui, pour appréhender justement tout ça.
Pour appréhender les comptabilités, les possibilités, etc. etc. En matière de gestion également d'entreprise, puisque à l'époque j'étais de l'autre côté de la barrière. Aujourd'hui, je suis revenu de l'autre côté, parce qu'il n'y en a que deux. Et ma formation à l'École des impôts a été une très très bonne formation, que je salue d'ailleurs. Et aujourd'hui, ça me permet d'avoir une certaine aisance en matière de gestion pour la vie publique également, et surtout pour la gestion des termes.
Quand vous étiez toujours pareil, toujours enfant, à qui vous auriez aimé ressembler? Est-ce que vous aviez un modèle?
Un modèle quand j'étais petit, je vais prendre un modèle.
Que ce soit un personnage public, que ce soit un sportif, que ce soit quelqu'un de votre famille.
Plutôt un sportif. J'aurais bien aimé être à cette époque-là en matière de football de la trempe d'un Raymond Coppa. J'en étais loin.
Pour les plus jeunes, aller sur Internet voir qui était Raymond Coppa, c'était l'équivalent de qui on a aujourd'hui. C'est l'équivalent d'Mbappé, on va dire, pour le foot français.
Zidane, Mbappé. Ouais. Griezmann, voilà.
Un joueur qui a
le même style que Griezmann, oui.
Qui a marqué avec le Stade de Reims, le foot français, ouais. et européen, même puisque avec Reims ils ont eu des belles épopées européennes. La personnalité, pardon, de votre ville qui vous a le plus marqué?
Ouh, ça c'est une question difficile. Hein. D'abord, il faut trouver une personnalité. Alors, je pense à quelqu'un. On peut dire que c'était une personnalité. Il venait en vacances à Balaruc, mais il n'était pas de Balaruc. Celui-là, c'est un gars qui a marqué. Maintenant, il peut y en avoir d'autres dans un autre contenu. Je pense à Maurice Clavel, le philosophe, dont les parents étaient pharmaciens sur Sète, hein, et dont les parents habitaient Balaruc. Et il venait régulièrement tous les étés à Balaruc. Celui qui a dit à la télévision, il s'est levé d'un débat, qui a dit « Messieurs les censeurs, je vous salue ». Je le revois toujours avec ses longs cheveux blancs, assis devant la maison de la presse en train de lire les journaux. Ça a été une personnalité forte qui a côtoyé Balaruc. Après, il y a plusieurs personnes qui m'ont quand même, que souvent j'ai eu en admiration, mais bon, je peux pas toutes les citer comme ça, c'est assez difficile, quoi.
C'est quelque chose qui n'a rien à voir. Quel est pour vous le plus beau métier du monde?
Le plus beau métier du monde, c'est peut-être celui que l'on retrouve dans les services à la personne, pour moi. Ce sont des métiers méconnus. J'ai vu ce que les filles de mon CCAS ont fait pendant la pandémie auprès des personnes âgées. Elles étaient là, au service des personnes âgées, les dépanner, aller leur chercher la nourriture, etc., etc. C'est peut-être un des plus beaux métiers que de dire « je suis utile pour la collectivité ».
Même si on a parlé beaucoup d'infirmiers, de docteurs pendant la pandémie, mais il y a tous ces métiers-là qui
étaient... Bien évidemment, il y a ça, mais tout autour de ça, il y a eu quand même des situations qui auraient pu être très douloureuses, encore plus douloureuses dans la population, et grâce à ces personnes-là, eh bien, on est arrivé à rendre des services formidables. Et ça, je crois qu'elles doivent avoir une certaine satisfaction, au fond d'elles-mêmes, d'un devoir accompli. C'est quand même... Moi, je trouve que c'est beau.
Pour parler maintenant de sujets un peu plus de société, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous, personnellement ?
Non.
Non. Ça vous plaît
non,
pas ?
Non. Je n'en fais pas une question de génération. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là, Facebook, etc., etc.
Facebook, Twitter, Snapchat, on en oublie.
Bon, ça commence à se développer, à pulluler, etc. Mais sur ces réseaux sociaux, il se dit du n'importe quoi. Du tout et du n'importe quoi. Oui. Il y a de la bonne information, il y a de bon développement, mais... Bon, comme tout le monde, j'ai vécu... Alors, moi, ça ne m'a pas trop impressionné, parce que alors là, je ne m'arrête pas à ça. Mais j'ai vécu une campagne électorale, cette fois-ci, complètement différente des précédentes. Beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, du n'importe quoi, pas d'arguments, des affirmations. Voilà. Alors, les réseaux sociaux, c'est la modernité.
C'est la partie peut-être anonymat qui est derrière les réseaux sociaux qui est gênante, parce voilà. que chacun peut dire n'importe quoi sous couvert d'anonymat.
Chacun peut dire du n'importe quoi, des contre-vérités, on ne sait pas qui c'est, il faut les rechercher, etc. etc. Bon, et puis, je trouve qu'à un moment donné, divulguer sa vie privée ou des choses plus intimes, etc., sur les réseaux sociaux, bon, moi, ça me paraît un peu limite. Donc, moi, les réseaux sociaux, il faut faire avec, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Voilà.
Sur les sujets qu'on a de société, mais qui sont anciens, parce que là, c'est à 19 ans, en l'occurrence, est-ce que vous savez où vous étiez le 11 septembre, le 11 septembre 2020 ?
J'étais en voiture. Pour dire où j'étais, c'est quand il est arrivé. Là,
les tours jumelles, oui, à New York.
Oui. J'étais en voiture 2001. Hein. Mm. 2001. Oui, j'étais en voiture et j'ai appris ça entre l'Ardèche et le Gard.
D'accord.
Ça, je me rappelle parce que je l'ai appris en voiture. Et je l'ai appris à ce moment-là. Voilà.
Autre chose, si vous pouviez rendre quelqu'un complètement muet, ce serait qui et pourquoi ?
Là, j'ai pas de... si on veut rendre quelqu'un complètement muet, c'est parce qu'il parle trop. Donc, bon, moi, je vois
ou
pas
mal.
Aujourd'hui. Voilà. Donc, non, je ne peux pas vous donner de réponse là-dessus. Je n'ai pas de réponse immédiate là-dessus.
Qu'est-ce que vous pensez de la presse, de manière générale ?
Ah, ça, c'est un sujet important. Alors, avant tout, moi, pour moi, la presse, c'est une entité indispensable pour notre démocratie et pour la liberté en général. C'est pour ça que moi, je me battrai toujours pour la liberté de la presse, même si souvent, c'est difficile pour nous, les élus, de côtoyer la presse au quotidien. C'est très, 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 très compliqué. Il faut bien se faire comprendre. Il faut que ce soit bien interprété. Et puis, souvent, il faut le reconnaître. Moi, ça ne m'est pas arrivé depuis que je suis maire. Mais quand j'étais président, parce que j'étais président d'un club sportif à l'époque, pas ici... la presse aimait bien entretenir les querelles, vous savez, entre les clubs de haut niveau, les querelles entre clubs, etc., etc. Et c'était souvent pas très agréable parce qu'on vous pousse dans les derniers retranchements. Mais en définitive, c'est un sport, c'est un jeu. Mais in fine, la presse, il faut la préserver. Il faut préserver surtout sa liberté d'expression. Et... Moi, pour moi, c'est un élément fondamental de notre démocratie.
Justement, puisque vous parlez de liberté d'expression, c'est un sujet qui est revenu là, ces dernières semaines quand on a quand le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher à Paris ont démarré. Où elle s'arrête cette liberté d'expression? Est-ce qu'elle peut s'arrêter d'ailleurs? Est-ce qu'il y a
un frein à la liberté d'expression? Il y a liberté d'expression jusqu'à l'instant où il n'y a pas d'atteinte à la liberté individuelle de chacun d'entre nous. Moi, je dis que la liberté d'expression doit aller jusque-là et que si on dépasse cette limite-là, là, c'est plus de la liberté d'expression, ça peut être tout autre chose. Et il faut savoir jouer avec ça. Voilà, c'est le rôle des journalistes, d'ailleurs, de savoir jouer avec ça.
Avant de passer à la troisième partie sur votre délégation à la vice-présidence de l'AGLO en matière de logement, je dis logement, mais ça recouvre plein d'autres choses, on va en parler. Dernière question, qu'est-ce qui peut vous mettre en colère?
Ce qui peut me mettre en colère, ce sont souvent les contre-vérités. Je n'accepte pas beaucoup qu'on amène des fausses informations sur tel ou tel sujet, que l'on colporte des bruits qui n'existent pas, que l'on dise... ça arrive, hein, dans la gestion des termes, souvent, on entend des absurdités. Aujourd'hui, parce qu'on dit la vérité de ce qu'il arrive sur le plan de la gestion, parce qu'il faut être honnête et dire la vérité. Moi, je ne cacherai jamais rien à quiconque, et surtout pas à mes concitoyens. Après, c'est transformer les termes de Balaruc dans le rouge, etc., etc. Presque on a fermé, quoi. Alors qu'on fait tout pour s'en sortir et qu'on va s'en sortir. Hein, et on a cette pugnacité, cette volonté. Bon, c'est un combat, la vie économique. Hein, bon, eh bien, après, voilà. Et après, parce qu'en tant que maire, sur le terrain, vous entendez beaucoup de choses. Et les gens qui savent que notre mentalité est comme celle-là, eh bien, viennent souvent me voir en me disant « Mais voilà ce qu'on m'a dit, alors... » Mais non, c'est complètement faux. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Ça me met des fois en colère parce que je dis « Bon, il faut arrêter. » Voilà. Mais bon, on arrive à s'y habituer.
Forcément.
La fête des mers sur RSL.
Troisième partie donc avec vous, Gérard Canovas. On va parler de l'AGLO et de votre vice-présidence. Vous avez dans votre compétence donc le logement, entre autres. Ça recouvre quoi tout ce terme logement?
Eh bien, c'est toute la politique du logement, et notamment le logement social. Et également la gestion des gens du voyage sur notre territoire.
Donc là, les projets que vous avez déjà sur la table dans les futures commissions que vous allez diriger?
Alors, depuis 2015, l'AGLO a pris l'aide à la pierre qui était dévolue avant au département. Et de part... cette prise de compétence, nous nous retrouvons à gérer tout ce qui concerne les aides au logement prévues par l'ANA, hein, l'Agence nationale de l'habitat. Donc, notre objectif, c'est d'amener, de par la compétence qu'a l'AGLO en matière d'habitat, en matière de logement, d'amener toutes les aides nécessaires à la réalisation sur le plan social de rénovation. Et vous avez le cœur de ville de Sète qui est un exemple, hein, qui a été rénové. Et de rénovation, justement, pour améliorer cet habitat ancien. Et puis également les aides pour la création de nouveaux logements, de programmes de nouveaux logements qui est établi en collaboration avec les villes, parce qu'une ambiguïté de la loi est que toutes les villes de plus de 3500 habitants ont l'obligation d'avoir 25% de logements sociaux.
Oui. Hein,
Et la compétence de l'habitat est à l'agglo. Alors, vous voyez la gymnastique, hein, avec des pénalités payées par les villes qui n'y arrivent pas, on n'y arrive pas.
Et la problématique de la place dans les communes, parce que quand on regarde sur le bassin de Thaux, il y a presque plus de place. Quand on enlève les terres agricoles, quand on enlève les endroits non constructibles, inondables,
exactement.
Et les villes qu'on peut pas, enfin, on peut pas pousser.
Alors, on est dans cette ambiguïté.
Alors, il doit être pareil.
On peut pas élargir. On est dans une ambiguïté.
Alors, il faut gagner sur la mer.
Voilà. C'est une ambiguïté qui s'oppose à nous tous. À savoir, plus de 70% des habitants de notre territoire de Thaux, de cette agglopole méditerranée, sont éligibles au logement social. C'est une réalité. Donc il nous en manque. Il nous en manque pour arriver au quota fixé par l'État, qui est draconien. On était à 20%, on passe à 25%. Boum, le lendemain, il faut réaliser, etc. Alors, j'arrive d'une commission en préfecture il y a un mois, pour toutes les villes qui n'arrivent pas. Ballard-Hugues-les-Bains, on était à 7, on est aujourd'hui à 13,5%, mais on n'est pas encore au bout. Marseillan, ils sont en difficulté un peu plus que nous, Poussin aussi. Enfin, à part 7... qui est au-dessus de 20%, sans avoir atteint les 25%, les autres communes ont été en très grande difficulté par rapport au logement social. Alors, pour attraper ce retard, il faut réaliser des opérations dans toutes les communes concernées pour faire du 100% de logement social si l'on peut, mais à condition de faire ces 100%, c'est-à-dire ces opérations, dans des lieux où on a la mixité. Parce que nous devons, par le logement social, d'intégrer les populations dans un cadre de mixité, puisque toutes les communes de l'agglo ont signé un contrat de mixité avec l'État sur le logement social. Alors là, il y a un gros chantier. Je ne sais pas si c'est percevable. C'est pas l'agglo qui construit, ce sont les bailleurs sociaux, sous l'égide des villes, bien évidemment, et les aides sont amenées dans les différents programmes par l'agglo.
Là, sur l'agglo, est-ce que vous connaissez des communes qui ont de la place encore pour pouvoir faire de la construction et dans lequel on intégrera du logement social ?
Oui, il y a des places, mais ces places, elles sont limitées. Nous sommes contraints. On ne construit pas comme on veut, où on veut, n'importe comment. Alors, vous avez des périodes, ça marche par période triennale. Vous avez des périodes triennales où vous allez remplir vos objectifs, parce qu'on se fixe des objectifs par période triennale. Vous allez les remplir. Et puis d'autres, moi, c'est le cas de ma commune. Il y a 3 ans, la période triennale d'avant, on était à 110%. Et là, on est à 60%. Donc après, les pénalités, la carence, etc., etc., etc. Il y a des sanctions, quoi. Voilà. Alors, quand on va devant le préfet, qu'on lui dit, mais monsieur le préfet, venez visiter nos communes. Venez les visiter, on fait le tour. Et vous allez me dire, nous, on n'est pas, on signera les permis de construire. Vous allez me dire, là on peut, là on peut pas, là on peut, là on peut pas. Il faut débloquer des zones dans les PLU. Ça prend du temps. C'est le logement social aujourd'hui. Dans notre territoire, sur notre territoire, est absolument indispensable. Moi, dans ma commune, à Ballard-Hugues-les-Bains, Geneviève Feuillassier, ma première adjointe qui s'occupe du logement social, a à peu près 280 à 300 demandes en instance. Et on en a fait. Croyez-moi qu'on en a fait. On a construit. On a réussi à faire des opérations à 100% dans un cadre de mixité. D'ailleurs, c'est une parfaite réussite. On n'a pas de problème. Les logements, aujourd'hui, les architectes arrivent à faire des trucs fabuleux. On arrive. Mais après, c'est la cadence. C'est la cadence. Et c'est très compliqué. Et moi, je dois reconnaître que dans ma délégation, le président me laisse toute liberté d'action. les objectifs sont établis et ils me laissent toute liberté d'action, et jusqu'à présent, y compris, bien sûr, les libertés budgétaires pour pouvoir assumer et réaliser. Voilà.
Les budgets, justement, ça se monte à combien de... Vous avez une idée de...
Le budget que nous avons aujourd'hui...
Pour cette partie-là.
Sur cette partie-là, à l'aglo, je ne l'ai pas tout à fait en tête parce qu'il varie d'une année sur l'autre en fonction de nos besoins. On doit être dans l'ordre de 3 à 4 millions d'euros tous les ans.
Par an,
oui.
Qui servent à quoi en pratique ?
Mais qui servent à donner des aides aux bailleurs sociaux. D'accord. Par exemple, nous avons des règlements. Par exemple, Taux Habitat, qui est notre bailleur social de référence sur l'aglo, puisque vous savez que les aglos doivent avoir un bailleur social. Taux Habitat nous dit, mais je fais telle opération, il va y avoir 52 logements sociaux, des PLAI, c'est catégorisé, etc. Nous, on dit que par PLAI, par T3, il y a une aide de 2500 euros ou de 3000 euros. Vous voyez, ce sont des aides directes au bailleur social, ce qui permet d'amoindrir le coût de la construction, de diminuer le coût pour le bailleur, de telle sorte que les loyers, après, soient inférieurs.
Merci beaucoup, Gérard Canovas, d'avoir passé pratiquement 1 heure avec nous, pour que les personnes vous connaissent mieux, si c'était possible, vous connaissent mieux. Pour terminer, j'ai deux questions qui sont ce que j'appelle les questions existentielles. Est-ce qu'il vous arrive de commencer vos phrases par « c'était mieux avant » ou « de mon temps » ?
Ça m'arrive de le penser. Alors, est-ce que je le dis souvent ? Je ne sais pas. Mais souvent, je le pense, oui.
Sur quel domaine en particulier ?
Sur la vie en général.
Je crois que tout à l'heure, vous avez dit que c'était plus agréable à une certaine période de vivre.
Oui, c'est, par exemple, si on devait refaire une vie, je préférerais vivre la jeunesse que j'ai vécue que ce que vit aujourd'hui notre jeunesse. C'est pas du tout pareil. Tout était rose. Alors, c'est vrai qu'on est plus jeune, mais tout était rose, etc., etc. Mais voilà. Après, je ne chante pas tous les jours de notre époque, ceci, de notre époque, cela. Non.
La dernière question, on se quittera là-dessus. Si vous deviez revivre une journée de votre vie, ce serait laquelle ?
Une journée de ma vie, si je devais la revivre...
Allez, je vous en donne deux. Allez, je vous en accorde deux. Dans ma grande bonté, vous en avez droit.
Allez, une dans le domaine du sport. Quand avec... à l'époque, j'étais président d'un club sur Montélimar, dans la Drôme. On a été champion de France. C'est quelque chose de... Pour la première fois, c'est quelque chose de mémorable. Voilà. Au plus haut niveau. Et après... Ah ben pourquoi pas. Notre première élection... En 2008, qui a été un peu plus difficile que les fois d'après, ça a été une satisfaction, parce qu'on était parti un peu la fleur au fusil. Ça, c'était une grande satisfaction que de revenir dans sa commune, après être parti, et puis de voir qu'on a la confiance, quoi. Ça aussi, c'était un grand moment. Voilà.
Merci beaucoup, Gérard Canovas, d'être venu.
Je vous remercie
encore une fois. Et puis, on va se quitter et on se retrouve dans une semaine avec un nouveau maire de notre circonscription sur Sète et le bassin de Taux.